Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'enfant sauvage. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Léandre arrive à l'étang. Et tout est excité et a peur que Maxime ne l'ait pas attendu. Il le voit enfin. Il est près de l'étang et regarde l'eau. Elle s'approche de lui. Il tourne la tête et la voit. Lui sourit, se lève et va vers elle. J'ai eu si peur que tu ne m'attendes pas. Il lui sourit. Tu sais, mon père ne veut plus que nous voyons. Alors je suis obligé de venir en cachette. Il la fait asseoir dans l'herbe et se met à côté d'elle. Pourquoi votre père ne veut-il pas que nous voyons? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis jeune fille. Que les jeunes filles ne doivent pas sortir seules. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? J'ai pêché un peu, regardé les oiseaux, le ciel, et je vous ai surtout attendu. Et si je n'étais pas venu, qu'auriez-vous fait? J'aurais été très triste. Elle lui donne un baiser sur la joue. Je tâcherai de venir tous les jours. Il lui sourit. Les jours passent. Léandre s'arrange pour rejoindre Maxime tous les jours. Elle boude Viviane et son père.
Capo, tu devais jouer ton 10 d'entrée. Écoute-moi que t'avertis, le boulanger en a marre de payer. La tournée, elle va être pour toi.
Ça ne va pas.
Vous avez deux, trois contre moi. Mais t'es contre moi.
Un soir, dans le café du village, des paysans parlent entre eux. Un gros avec moustache dans les 50 ans dit à un maigre et vieux:
j'ai encore 2 brebis de mortes cette semaine. Toujours la même chose. On dirait qu'elles ont été égorgées.
C'est peut-être les loups.
Un homme au bar, un verre à la main, dans les 30 ans, leur dit:
les loups, ils ont bon dos. Moi aussi j'en ai eu 5 en un mois. Et puis, si c'était les loups, on le saurait, on les aurait vus. Tandis que là, c'est plutôt le travail d'un fada, ou d'une vengeance.
D'un fada, il n'y en a pas.
L'homme au bar s'approche.
Tu crois ça, toi? Et le petit Maxime?
Maxime, il a fait de mal à personne.
Il ferait de mal à même pas à une mouche. Peut-être bien à une mouche, mais à plus gros?
Je ne te crois pas.
Écoute, tu ne veux pas me dire qu'il est normal, le petit. Toujours, été comme hiver, a vagabondé dans les environs. Et puis tes bêtes sont dans le pré près de l'étang.
Oui.
Il est souvent par là.
Le vieux maigre dit:
remarquez, l'on dit que c'est les bêtes qui attaquent les troupeaux. Mais quelquefois, il est vrai que le Maxime, il est bizarre. Cela ne m'étonnait pas que ce soit lui.
L'homme qui était au bar dit:
il n'y a qu'à le lui demander.
L'homme à qui on a égorgé les moutons dit:
je ne me sens pas le courage d'aller lui courir après.
Celui qui était au bar dit:
après une bonne chopine, tu te sentiras le courage. Et nous irons tous avec toi. Nous t'aiderons à lui donner une bonne correction.
Et cette chasse alors?
Oh, ne m'en parle pas, hein. 2 chachas et un pinceau royal, hein. Même pas de quoi faire la brochette.
Hein. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a plus, les grives. Et chaque année, ça recommence le refrain. Et pourquoi vous y allez encore à la chasse, hein?
Trois heures plus tard, les 3 hommes quittent le café, ivres et pleins d'entrain.
Nous allons à l'étang.
Et ils y vont. La nuit est douce et c'est la pleine lune. Ils arrivent à l'étang, trouvent Maxime qui est assis et qui attend Léandre. Les 3 hommes s'approchent de lui. Maxime se lève. L'homme du bar lui dit:
« Je suis venu ici, c'est pour savoir si c'est toi qui as égorgé les moutons du pays. »«
Non, c'est pas moi. »«
Ne nous mens pas. Dis-nous la vérité. »«
Je vous ai dit la vérité, monsieur. »
Le vieux dit: « Si tu veux savoir s'il a dit la vérité, il faut lui donner une bonne correction. »«
Tu as raison, le vieux. »
Et 3 hommes s'approchent de Maxime.
Recule, et trébuche sur une pierre qu'il fait tomber. Les hommes, ivres de vin, de violence, se ruent sur lui et cognent.
Une Une heure plus tard, le visage en sang, les membres endoloris, Maxime gît à terre sans bouger. Il voit au-dessus de lui le ciel étoilé et apparaît, qui se penche sur lui, le visage de Léandre.
Que t'est-il arrivé, Maxime ? Tes hommes du village sont venus m'accuser que j'avais égorgé leur mouton. Ils m'ont cogné dessus. Mon pauvre Maxime, les gens sont méchants. Je ne veux plus les revoir. Je ne veux plus les voir. Ne bouge pas, je vais t'aider. Tout d'abord, nettoyer le visage, puis je te ramènerai chez toi. Et elle va noyer son mouchoir dans l'étang. Nettoie le visage de Maxime. Tu ne peux pas rester ici. Où dois-je te mener ?
Chez ma grand-mère.
Léandre aide Maxime à marcher. La maison n'est pas très loin de l'étang. Que Maxime est chez sa grand-mère, Léon lui promet de venir le voir.
Léon n'a rien de grave. Quelques jours de repos et tout sera dans l'ordre,
lui dit la grand-mère en lui disant au revoir. Les trois paysans ont rencontré Léandre et l'ont vu se pencher sur Maxime. Lendemain, un bruit court au village que Léandre couche avec Maxime. Maxime se remet de ses bleus et plaies. Léandre va le voir tous les soirs à la ferme de la grand-mère. Trois jours plus tard, Maxime est complètement remis. Léandre est réveillé par le bruit de la porte de sa chambre qui vient de s'ouvrir. C'est son père, en redingote noire, l'air furieux. La pièce est éclairée que par les rayons du soleil qui traversent les persiennes. Il s'avance vers le lit.
J'ai appris que tu revoyais ce petit sauvage. L'on vous a vu en pleine nuit près de l'étang. Tout le village jase et dit que tu es sa maîtresse. Tu as fait entrer le déshonneur dans notre famille. Je t'avais interdit de le revoir.
Mais père, nous ne faisons rien de mal.
De vous fréquenter, c'est déjà un crime.
Pourquoi, père ? Si je l'aime, ce n'est pas parce qu'il est plus pauvre que nous.
Tais-toi, te dis-je. Tu ne le reverras plus. Je vais te faire partir sur le champ Sainte-Marguerite. Là, les religieuses t'apprendront à obéir.
Tu es plus un enfant, père.
Silence. Prépare tes affaires. Tu partiras dans 2 heures.
Et il sort. Léandre est effondré.
C'est injuste. Pourquoi père me traite-t-il de cette façon? Je ne veux pas te quitter, Maxime. Je t'aime. Oh, Maxime, Maxime. Je me moque que tu sois pauvre et sans nom. Je t'aime et je veux vivre avec toi.
L'interdiction du père a doublé son amour pour Maxime. Un amour qui devient par les interdits dramatiques se renforce dans l'esprit des corps romanesques. Et puis, c'est son premier amour. Elle est prête à tout pour le protéger. Ce n'est plus Maxime qu'elle protège, mais son amour pour lui, l'injustice de cette interdiction. Non, je ne veux pas me laisser enfermer dans un couvent. Il me reste 2 heures de liberté. Habillons-nous vite et partons. Elle se lève. S'habille. Prend une petite mallette et y met quelques affaires. Sort de la chambre. Monte le couloir et descend les escaliers. Et sort de la maison. Et court dans le parc. Essoufflé à la maison de la grand-mère de Maxime. Il y habite encore. Elle frappe à la porte. La grand-mère lui ouvre. Elle est surprise de la voir de si bon or, la mine défaite.
J'aimerais voir Maxime, madame, s'il vous plaît.
Drôle ! Il dort encore. Il dit que vous êtes là.
Elle la laisse sous le port de la porte. 2 minutes plus tard, elle revient.
Entrez, mademoiselle.
Elle entre dans la pièce. Tim est au milieu de la pièce. Il accourt vers elle. La mère les a laissés seuls.
Maxime, il est arrivé quelque chose de grave. Les gens du village ont jasé sur nous deux et Perle a appris. Il est furieux et veut nous séparer. Il doit me mener ce matin chez les religieuses. Je me suis enfui. Je veux vivre avec toi.
Maxime est surpris et heureux et fier de cet acte d'amour. Son jeune âge ne lui montre pas les graves conséquences de cet acte, mais seulement le côté romanesque. Il la prend dans ses bras.
« Tu as tout lâché pour moi ? Tu veux vivre avec moi ?
Oui.
Oh, ma bien-aimée, comme je t'aime, comme j'aimerais tant te donner tous les trésors de la terre, une vie princière. » Malheureusement, je n'ai rien, et la vie avec moi risque d'être dure. Ça n'a pas d'importance. J'accepte tout, maman, que je suis avec toi. Je t'aime.
C'est la première fois qu'elle le lui dit.
Moi aussi.
Se dégage, faut fuir vite et partir d'ici, car père risque de me retrouver. Lorsque son père s'est aperçu de sa disparition, il l'a dit à Viviane.
« Il faut les faire rechercher, monsieur. Il faut les ramener. »«
Surtout pas, n'ébruitons pas le scandale. Ma fille n'existe plus pour moi. Je les maudis tous deux. Maudits, tu comprends. Ils ont enfreint les lois les plus sacrées. La vie pour eux va devenir un enfer. Un enfer. »
Léandre et Maxime ont quitté le pays à pied. Ils suivent des sentiers en évitant les habitations. Ils ont dormi à la Belle Étoile. Et après une semaine épuisante, ils se sont arrêtés à une vieille bergerie abandonnée. Le froid est venu avec un peu de neige. La grand-mère de Maxime lui a donné un peu d'argent. Il est allé au village voisin prendre quelques provisions. Le temps passe. Léandre a aménagé la bergerie avec quelques planches et de vieux meubles qu'elle a achetés au village. Maxime travaille comme homme de peine dans les fermes et chez un bûcheron. Léandre est heureuse, elle a l'impression de vivre une vie à la Robinson dans une maison de poupée. Maxime aussi est très heureux. Les gens du pays ne leur posent pas de questions. Ils pensent que c'est des domestiques qui se sont mis en ménage. Ils s'aiment d'un amour chaste. Maxime est un pur qui ne connaît pas les troubles du corps. Et Léandre est romantique. Son amour pour Maxime est levé à la Paul et Virginie. Ils dorment ensemble en se donnant de tendres baisers et caresses. Le temps passe ainsi, paisible et heureux pour les amoureux. Malheureusement, le temps transforme le corps et les besoins naturels se font entendre de plus en plus fort. Pour Léandre, comme pour Maxime, ils croient que leurs désirs sont une nouvelle étape à leur amour. Ils s'imaginent que plus leur désir de posséder l'autre grandit, plus leur amour devient fort. Dans leur lit, la pièce chauffée par un feu de cheminée, une nuit qui commençait comme toutes les autres nuits, par de tendres caresses et de doux baisers, Maxime fait durer un peu plus longtemps ses baisers, ses caresses. Et puis, plus il les faisait durer, plus il devenait entreprenant. Et il arriva ce qui devait arriver. Son instinct, la connaissance des bêtes, l'y aida. Léandre laissa faire, emporté par une fougueuse et douce joie qui l'emporta jusqu'au profond d'elle-même. Que leurs corps furent apaisés, ils n'en éprouvaient aucun remords. Ce qu'ils venaient de faire faisait partie de leur amour. Désormais, ils devaient se retrouver toutes les nuits ainsi. Les amoureux sont heureux, mais Léandre sent une certaine gêne, des douleurs, des nausées. Maxime l'amène chez le médecin du bourg. Il attend dans la salle d'attente. Après avoir examiné Léandre, le médecin la raccompagne vers Maxime.
Ce n'est rien, monsieur. Votre femme attend un heureux événement.
Un heureux?
Oui, un enfant.
Il sourit.
Un enfant?
<t'en>
heureux. Un enfant. Ils auront un enfant à eux deux, bien à eux. Ce sera notre enfant. Pour eux, c'est la chose la plus simple du monde. Ils s'aiment. Ils vivent ensemble. Ils ont un enfant. Léandre est très heureuse. Un enfant de leur amour. Le fruit de leur amour. La preuve qu'ils s'aiment. La preuve concrète qu'ils s'aiment et que Dieu n'est pas contre leur amour puisqu'il leur envoie un enfant. Ni l'un ni l'autre ne songe au côté pratique et social de la chose. Le temps passe. Viviane entre dans la chambre de Jules Pommelet. Il est au lit, il fait signe à la jeune fille de s'avancer.
Approche !
Elle approche du lit. Et se penche vers lui.
Écoute, écoute bien. Je vais mourir. Je veux revoir ma fille. C'est très important. Il faut qu'elle sache. Tu vas me la retrouver et me la ramener. Oui. Oui, oui, je sais que ce sera dur pour toi. Je comprends très bien tes réticences, mais c'est très important. Promets-moi de me la ramener, je t'en prie.
Je vous le promets.
Elle a dit au bain Marie, Luc à ta place.
J'aimerais que Dieu veuille pour moi prier.
Marianne.
Doucement le supplier.
Le feu.
Par pitié me réconforte. Et que je me vois baptiser de vivre la laissance sur l'amour et sa grâce. Et que tout simplement le serve et que la gloire de Dieu lui serve. Ainsi soit
ainsi soit-il.
Mon Dieu, ma bonne mère, j'ai mal.
Oui, le faut bien. Le Seigneur l'a voulu pour ton péché.
Mais j'ai trop mal.
La pierre d'aigle.
Léandre a mis au monde un enfant. C'est la sage-femme et des paysannes du pays qui l'ont aidé. L'enfant est un petit garçon. Il s'appelle Lionel. Peut-être baptisé, tant pis. Leur vie reprend avec l'enfant entre eux. Un matin, Léandre est seule chez elle avec l'enfant. L'on frappe à la porte. Elle va ouvrir. C'est toi, Viviane ?
Oui, Léandre. Que viens-tu faire ici ? Je viens de la part de ton père. Mon père ? Et qui t'a dit que j'habitais ici ? En entendant parler les paysans. Je suis venu, j'ai un message de ton père. Mon père ? Tu lui diras que je vais bien et que je tiens à rester ici. Ton père est très malade. Il veut te parler. Mon père veut me parler. Et de quoi ? Je t'en prie. Je t'en prie. Il ne va pas bien. Il est très mal. Il est si mal que ça ? Oui, très mal. Où est-il ? Chez lui. Il faut que tu viennes tout de suite. Les heures comptent.
viens, je viens. » Elle prend un foulard et suit Viviane qui a pris une carriole pour venir jusque-là. Prévenu Maxime et dit de mettre l'enfant chez une voisine. Durant tout le trajet, les deux femmes ne se parlent pas. Après 5 heures de route, elles arrivent chez le père. Monte tout de suite à l'étage. Ils vont frapper à la porte de la chambre.
Entrez !
Viviane et Léandre entrent. Léandre est émue et tremble comme une feuille, mais elle est déterminée à défendre son bonheur. Le vieil homme dit à Viviane de quitter la pièce. Il demande à Léandre de s'approcher. Ils sont tous les deux très émus de se revoir.
Mon enfant, j'ai quelque chose à te dire. C'est que tu as péché, et gravement péché. Tu as enfreint les lois en aimant ce qui est interdit. Tu te souviens, lorsque je suis arrivé ici, c'était soi-disant pour avoir obtenu un poste. En réalité, sachant ma fin proche, j'ai voulu revoir le fruit de mon grand amour, du grand amour de ma vie. Et ce fruit, c'est Maxime. Oui, Maxime est mon fils. Ta mère était ma maîtresse bien-aimée. Tu comprends pourquoi je t'avais interdit de voir ce jeune homme. Tu ne m'as pas écouté et tu as aimé ton demi-frère. Il faut maintenant que tu le saches, que tu ne voyes plus ce jeune homme.
Père, c'est terrible ce que vous me dites.
J'ai un enfant de lui. Cet enfant n'a pas le droit de vivre, ma fille. Il n'existe pas. A-t-on un enfant de son frère?
Oh père, c'est terrible, je me sens coupable et en même temps j'aime toujours Maxime, ce petit être innocent. Mais père, Maxime n'est que mon demi-frère.
Un peu plus, car sa mère avait le même sang que ta mère. Je te pardonne et comprends ton chagrin. Allez, laisse-moi maintenant, laisse-moi en paix. Je me sens là tout ceci. Va-t'en.
Elle quitte la pièce, apeurée, dégoûtée d'elle-même. Prends le chemin du retour. Viviane lui a prêté la charrette. En arrivant, elle prend l'enfant chez la voisine. Et se sauve en courant dans les champs.
arrive 2 heures plus tard, apprend que sa femme a pris l'enfant et recherche tous deux puisqu'il ne les a pas trouvés dans la maison. Deux jours plus tard, deux paysans ont retrouvé Léandre morte dans un champ, l'enfant étranglé à côté d'elle. Maxime, pris de douleur, court chez le père de Léandre. Il a dû lui dire quelque chose qui l'a fait souffrir. C'est pour cela qu'elle s'est suicidée. Il arrive chez le père, entre dans la maison. Monte à l'étage. Trouve en haut des escaliers Viviane. Où est le père? Dans sa chambre, n'y allez pas. Il la pousse dans le couloir. Il va ouvrir la porte de la chambre. Un prêtre est en train de donner l'extrême onction au père de Léandre. Maxime s'approche. Pourquoi Léandre s'est-elle tuée? Que lui avez-vous dit? Le prêtre tente de s'interposer. Le père fait signe de le laisser.
Tu veux savoir ce que je lui ai dit? Je lui ai dit mon plus grand péché, qui est devenu le vôtre, encore plus grand. Vous êtes frère et sœur.
Vous mentez.
Devant la mort, je mentirai. Attends.
Maxime, effondré, sort de la pièce. D'une forêt, au pied d'un précipice, Maxime pleure son amour. Léandre, nous étions innocents tous les deux. Notre amour était pur. Dieu doit te pardonner. Et sur cette terre, je suis un paria. Rien. Un criminel qui enfreint les lois. J'ai plus rien à faire dans ce monde. Je vais te rejoindre. Je suis sûr que nous serons heureux dans un monde meilleur. Léandre, Léandre, je t'aime. Et il saute du haut de la falaise. Ah ah.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'enfant sauvage. Produit